Donc, aujourd'hui, on va parler de la prière et je demandais à Alain s'il pouvait faire pour nous une lecture. Tu veux le faire ici devant? Donc, je ne sais plus exactement à partir de quel verset tu peux annoncer.
Tu m'avais dit que c'était donc acte 27, à partir du verset 13. C'est en fait, c'est un chapitre qui est consacré au départ, au voyage de Paul pour Rome, pour comparaître devant César. Et avec cet épisode assez délicat, puisque Paul a été pris dans une tempête. Donc, acte, chapitre 27, à partir du verset 13 jusqu'au verset 28. Une brise, oui.
Jusqu'au premier verset du chapitre 28.
Au premier verset du chapitre. D'accord, jusqu'à la fin. Une brise du sud s'étant mise à souffler, ils crurent qu'ils exécuteraient à leur gré leur dessein. Et ayant levé l'ancre, ils côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent furieux appelé Euraquilon s'abattit sur l'île. Le navire se trouva entraîné sans pouvoir résister à l'ouragan. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Ayant été poussés au-dessous d'une petite île appelée Clauda, nous parvînmes avec peine à nous rendre maître de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on consolida le navire en le ceinturant de cordages. Puis, dans la crainte d'échouer sur les bancs de la Syrie, on jeta l'ancre flottante et on se laissa ainsi porter à la dérive. Le lendemain, la tempête étant toujours aussi forte, on dut abandonner la cargaison à la mer. Le troisième jour, nous jetâmes de nos propres mains les agrès du navire. Pendant plusieurs jours, ni le soleil ni les étoiles ne se montrèrent, et la tempête restait toujours si violente que nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Il y avait longtemps que ceux qui étaient à bord n'avaient pris de nourriture. Paul se leva au milieu d'eux et leur dit « Mes amis, il aurait fallu me croire et ne pas partir de Crète. Nous aurions évité ce péril et cette perte. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Aucun de nous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Cette nuit, en effet, un ange de Dieu, à qui je suis et que je sers, m'est apparu et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. » Et voici que Dieu t'a accordé la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, ayez bon courage, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais il faut que nous soyons jetés sur quelque île. C'était déjà la 14e nuit que nous étions ballottés sur l'Adriatique, quand vers minuit, les matelots estimèrent qu'ils s'approchaient d'une terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent encore et trouvèrent 15 brasses. Alors, craignant de donner contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres du haut de la poupe et ils appelaient de leur vœu la venue du jour. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter des ancres du côté de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces gens ne restent pas à bord, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les câbles de la chaloupe et la laissèrent tomber. Puis, en attendant que le jour vînt, Paul les exhorta tous à prendre de la nourriture. « Voici, leur dit-il, le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous restez à jeun, sans rien manger. » Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire à votre salut. Aucun d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, il rendit grâce à Dieu en présence de tous. Puis il le rompit et se mit à manger. Tous alors, reprenant courage, mangèrent aussi. Or nous étions en tout 276 à bord. Quand chacun fut rassasié, on allégea le navire en jetant le blé à la mer. Quand le jour se leva, personne ne reconnaissait la terre. Mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y mettre, si possible, le navire à l'abri. Ils coupèrent donc les câbles des ancres, qu'ils abandonnèrent à la mer, et ils lâchèrent les amarres des gouvernails. Puis, ayant mis au vent la voile d'Artimon, ils tâchèrent de gagner le rivage. Mais étant tombés sur un endroit battu par la mer des deux côtés, ils y firent échouer le navire, et tandis que la proue enfoncée restait immobile, la poupe étant brisée par la violence des vagues. Alors, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne parvînt à s'échapper à la nage. Mais le centenier, voulant sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter à l'eau, les premiers, et de gagner la terre, et aux autres de se mettre soit sur des planches, soit sur des épaves du navire. C'est ainsi que tous parvinrent à terre, sains et saufs. Après avoir été ainsi sauvés, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte.
Merci. C'est sûr que c'était un long texte, mais je voulais bien lire ça, déjà parce que c'est digne d'un film. On pourrait faire un film sur cela. Mais pour moi, le point, c'est que on parle de la prière aujourd'hui et on voit dans la vie de Paul que Dieu agissait à travers la tempête. Souvent, c'est à travers la tempête. On veut une vie tranquille, paisible, le bonheur et rien du tout, pas de vagues. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Il est intéressant que l'ange lui dit « ne crains pas ». Hein? Donc, évidemment, dans une telle situation, on aura peur. Mais il est rassuré par le message de Dieu qui est apporté par l'ange. Et il dit « il faut que tu comparasses devant César ». Donc, Dieu a un plan. Et Dieu va accomplir son plan. Et si Paul avait prié quelconque autre thème dans cette situation, de toute façon, Dieu allait accomplir sa volonté. Donc, il fallait pas que Paul et les autres meurent, mais que Paul soit sauvé. Et dans sa prière, il a demandé que Dieu sauve les autres de cette tempête. Et c'est pour ça qu'on voit, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, c'était 14 jours leur épreuve. Hein? Donc, c'est intéressant. Donc, ces trois points, simplement pour donner arrière-plan au message sur la prière. Donc, le texte que j'ai choisi ce matin, c'est Éphésiens chapitre 6 et verset 18. Éphésiens chapitre 6 et verset 18. Donc, dans le contexte, c'est à la fin de tout ce discours concernant l'armure chrétienne, l'armure du chrétien. Et dans le verset 18, nous lisons, « Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Bon, ça continue dans le contexte. Donc, on voit qu'on doit, il dit, faire en tout temps des prières. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit, nos prières. Donc, prier est une activité spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 2 et verset 18, nous apprenons, car si, sinon ça c'est le verset, attends, 2:18, je suis en Galate, c'est pour ça. Excusez-moi. Éphésiens 2, 18. Car par lui, donc en parlant de Jésus-Christ, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc on a accès au Père, on a accès à Dieu, c'est dans l'esprit, mais c'est grâce à Jésus-Christ. Donc quand Pierre a parlé de la prière il y a quelque temps, eh bien, l'accès dans la prière à notre Abba Papa, eh bien, c'est seulement par le Seigneur Jésus-Christ. Si on ne passe pas par Jésus, on n'a pas accès à Dieu. Nous pouvons lire aussi dans Romains chapitre 8 et verset 15. Romains chapitre 8 et verset 15. Et vous n'avez pas point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Père, quand on croit en Jésus-Christ, on le reçoit comme notre sauveur, on devient enfant de Dieu et donc il devient notre Père céleste. Et aussi dans Galates chapitre 4 et verset 6, Galates chapitre 4 et verset 6, et parce que vous êtes fils, parce que vous êtes enfant de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc, nous devons faire en tout temps par l'Esprit des prières. Il dit toutes sortes de prières. Donc, quand on parle de prière, on parle de l'idée de s'adresser librement à Dieu. Ça n'empêche pas qu'on peut écrire. Il y a des personnes qui écrivent leurs prières, etc. Mais l'idée, c'est une relation que nous entretenons avec Dieu. Donc, je me souviens, en faisant porte-à-porte une fois, j'ai rencontré une dame musulmane. Elle voulait dire qu'elle était bonne croyante. Elle dit, mais je prie 5 fois par jour. Et j'ai dit, je prie tout le temps. Et comment vous pouvez prier tout le temps? Parce que pour elle, la prière, c'était la position sur le tapis, etc. Et non pas la relation avec Dieu. Et nous avons cette relation à Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit du Christ qui est en nous. Donc, toutes sortes de prières, il y a divers genres de prières, et il dit de supplications, donc les détails dans nos besoins. Donc, on peut prier pour le gouvernement, on peut prier pour nos vies quotidiennes. Tout à l'heure, on a prié pour ceux qui voyagent, on peut prier pour le salut des âmes. Il y a plein de sujets pour lesquels on peut prier. Il y a l'intercession, il y a supplication, il y a plein de diverses façons pour entretenir avec Dieu. En tout temps. Donc, le tout temps, c'est sans arrêt. Hein? On peut entretenir avec Dieu. Par son esprit, donc on parle du Saint-Esprit, dans l'esprit, n'importe quel genre de prière, de supplication. Et puis, il dit, veillez à cela. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, c'est une commande continue. Hein? Nous devons continuellement prier. On doit persévérer dans cela. Comme c'est un commandement comme aimez-vous les uns des autres, et bien là, c'est prier. Okay? On doit faire ça. Des exemples encore, donc, il dit, et prier pour tous les saints, donc, des exemples, donc, prier que les frères et sœurs puissent plaire à Dieu, qu'ils puissent avoir la sagesse, prier pour les études, ceux qui sont à l'école ou au travail, pour la sécurité, la santé des uns et des autres, pour la patience, pour les finances des uns et des autres, pour les familles, pour la paix, pour la soumission à Dieu, croissance dans la foi, l'honnêteté dans les affaires. Il y a plein de sujets pour lesquels on peut prier les uns pour les autres. Okay, c'est ça qu'il dit ici. Donc, le message est, on va dire, assez simple. Le premier point à propos de la prière, c'est que nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour cela qu'on a chanté tout à l'heure Dieu Tout-Puissant. OK? La parole nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est en réponse à la question de Marie, mais c'est pas possible que j'ai un enfant parce que je ne connais aucun homme. Eh bien, Dieu a dit, rien n'est impossible à Dieu. Plus tard dans la parole, nous allons lire que le croyant, donc Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie, en Philippiens 4, 14. Okay? C'est pas pour dire que Paul pouvait tout faire. C'est pour dire que celui qui la fortifie, celui qui le fortifie peut tout faire. Donc nous devons reposer notre confiance, non pas en soi, non pas dans les frères, non pas dans l'Église, non pas dans les anges ou autre chose, mais en Dieu Tout-Puissant, à Dieu seul. Donc je voudrais lire dans Ésaïe, on va lire deux textes, Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, versets 7 et 8. Ésaïe chapitre 42, versets 7 et 8. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison des captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, Dieu, il ne partage pas. Ce qu'on devait faire en tant que Romain à l'époque, pas de Jésus, mais de l'époque de Paul et de un ou deux siècles qui ont suivi, c'était simplement croire en Jésus et faire un petit sacrifice à César et on aurait gardé sa vie. Mais Jésus est exclusif. Il n'accepte pas un autre Dieu, même pas César, à côté de lui. Et c'est pour cela que les chrétiens étaient exclusifs, que tant des milliers de chrétiens étaient mis à mort. Parce qu'ils ne priaient que au Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Aussi dans... Et puis, bon, le verset 7, ça parlait de Jésus. C'était des prophéties concernant ce que Jésus allait faire. Okay? Après, on va regarder dans Ésaïe 48... Ésaïe 48, versets 11, 12 et 13. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comme mon nom, car comment mon nom sera-t-il profané? Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Donc, vous voyez dans le verset 12, on parle de la même personne qui se retrouve dans l'Apocalypse. Hein? L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et il dit encore dans ce texte, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, c'est très important que nous comprenions quand nous nous adressons à Dieu, nous adressons le Dieu triunitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le seul Dieu. Nous ne nous adressons pas aux chrétiens qui sont morts. Nous ne nous adressons pas à Bouddha ou aux autres choses. On ne s'adresse pas aux plantes qui nous entourent dans la création. Dieu ne partage pas sa gloire. On s'adresse uniquement au Dieu Créateur. Et quand nous nous adressons à Dieu dans la prière, ce que nous sommes en train de faire, on demande que Dieu agisse dans nos affaires. On demande que Dieu intervienne. On demande en quelque sorte que Dieu fasse des miracles pour que l'avenir soit différent que nous craignons va arriver. Quand Dieu répond à une prière, c'est qu'il a changé quelque chose. Et c'est évident, quand on va s'adresser à Dieu dans la prière, c'est parce qu'il y a un problème. J'imagine que tous les matelots sur ce bateau, ils ont tous prié. Je ne dis pas que Dieu a entendu toutes les prières. Dieu a entendu la prière de Paul et ceux qui étaient avec lui, hein, les chrétiens qui étaient sur le bateau. N'empêche pas que les autres ont certainement élevé leur voix. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Il y a des risques, il y a des dangers, il y a des obstacles, il y a des besoins. C'est pour cela que nous allons prier. Il y a aussi des manques, il y a aussi des opportunités. On prie pour le salut des gens. Il y a un danger quand même, mais il y a une opportunité. Quand on prie, c'est qu'il y a un potentiel. Donc, on s'adresse à Dieu en demandant qu'il va changer les choses, qu'il intervienne. Donc, il y a un positif et un négatif dans la prière. Quand on s'adresse à Dieu, je vais dire en premier le négatif, et c'est dans Jacques chapitre 1, versets 6 et 7 que je vais lire. Jacques chapitre 1, versets 6 et 7. Le point, c'est que le doute et l'incrédulité rendent la prière inefficace. Le doute et l'incrédulité rendent la prière inefficace. Donc, ce n'est pas que je suis en train de dire que voilà, si on pense d'une manière positive, que tout va changer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas l'humanisme. Mais si on doute, si on croit que Dieu ne va pas agir, il ne va pas agir. Il faut avoir confiance dans le Dieu Tout-Puissant qui peut agir. Okay? Donc, Jacques 1, 6, mais, donc on en demande, je pense que dans le contexte c'était la sagesse, mais qu'il la demande avec foi. Donc, foi avec confiance. Sans douter, car celui qui doute est semblable aux flottes de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autre. Qu'un tel homme, ou femme, hein, on ne veut pas être sexiste là-dessus, hein, qu'un homme ou une femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dieu n'interviendra pas si nous doutons. Ce n'est pas que nous doutons de notre capacité, mais si nous doutons de la capacité de Dieu. Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne veut pas le faire. Est-ce que je ose poser cette question que je pense que Dieu ne veut pas faire? Ce n'est pas la peine. Parce que quand vous doutez, vous donnez votre réponse déjà. Dieu ne répond pas au doute, ils ne répondent pas à l'incrédulité. N'imagine pas que vous allez recevoir, il dit, quelque chose du Seigneur si vous doutez. Quand Jésus était à Nazareth, dans Matthieu 13, il dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à Nazareth, à cause de leur incrédulité. Les gens ne croyaient pas en Jésus. Donc, il empêchait que Dieu guérisse le malade dans cette ville de Nazareth. Aussi dans Matthieu, donc là c'est Matthieu chapitre 14, à partir du verset 27. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 27. Donc c'est quand on est dans le bateau et c'est pas la même situation avec Paul, mais c'est une autre situation dans le bateau. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et donc Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc, peur et doute, ils sont les frères. Okay? Quand il commençait à douter, il commençait à descendre dans l'eau. Donc, le point, c'était doute, incrédulité. Si vous voulez que Dieu intervienne, vous avez un problème, vous avez un petit enfant qui est malade ou quelque chose, il faut toujours avoir confiance que Dieu peut changer la situation. Ça ne veut pas dire que Dieu va changer la situation. On va tous mourir. C'est déjà pré-écrit. Chacun meurt une seule fois. Mais ça ne veut pas dire quand et comment. Et donc, Dieu peut intervenir. Il faut avoir confiance. Il est le Tout-Puissant. OK? C'est à la base de toute prière. Si vous doutez de Dieu, il ne réagira pas. Mais si Dieu intervient et répond à votre prière, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, ben, je suis bon pour prier. Là, je mérite un drapeau ou quelque chose. Non, vous allez rendre grâce à Dieu d'avoir intervenu, d'avoir répondu à votre prière et vous allez rendre témoignage que Dieu a agi dans votre vie. N'est-ce pas? Mm-hmm. Amen. Donc, la seconde partie, c'est positif. La confiance persistante et soumise à la volonté de Dieu obtient des résultats. OK? Donc, une confiance persistante et soumise à la volonté de Dieu. OK? Donc, il ne faut pas avoir une attitude rebelle devant Dieu ou avoir une pensée que Dieu doit faire tout ce que tu veux parce qu'il ne va pas le faire. Hein? Dieu ne fait pas ce que nous voulons. Même il n'a pas fait ce que Jésus voulait, il a fait ce qu'il voulait. Ce qui, comme on a vu avec Paul, selon le plan de Dieu. Il fallait que Paul parle devant César. Donc nous allons lire à partir de Matthieu chapitre 15 et verset 21. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Et donc cette confiance persistante qui est en vue dans cette histoire. Donc, c'est la dame païenne qui vient vers Jésus. Donc, Matthieu, chapitre 15, verset 21. « Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, donc c'était une habitante locale, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondait pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous !» Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, évidemment, elle était suffisamment proche pour entendre cette phrase. Elle répondit, donc elle vint se prosterner devant le Seigneur en disant, « Seigneur, secours-moi !» Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Bah, ça, c'est un obstacle. Quand Jésus dit non, c'est fini, n'est-ce pas? Mais elle avait cette confiance persistante. Elle dit, « Oui, Seigneur, » dit-elle, « mais les petites chiennes mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc j'ai trouvé intéressant, cette dame cananéenne, païenne, « Femme, ta foi est grande. » Et Pierre, « homme, de peu de foi. » C'est bizarre des fois, la réalité de la vie, n'est-ce pas? Le non-croyant qui a confiance en Dieu et le croyant qui n'a pas confiance en Dieu. Hein? Ben, c'est des fois, c'est comme ça. Mais ça devrait être le contraire. Mais enfin, Dieu veut que tout le monde ait confiance en lui, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant comment ça s'était passé pour que justement sa fille était guérie. Ok, donc Jésus avait du respect envers la confiance que cette dame avait en lui. Elle avait entendu certainement les histoires concernant Jésus et elle savait qu'il avait l'autorité, la puissance de faire cette guérison vis-à-vis de sa fille. Et donc, on revient au verset de début. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, faites. Faites, veillez, persistez avec assiduité. Donc, c'est l'idée, cette persistance, c'est persévérer, c'est l'idée 100%. Dieu veut qu'on soit 100% dans nos prières. Ça ne veut pas dire que nous devons parler à 100%, sans arrêt parler ou jeûner pendant le restant de la vie. Mais c'est notre attitude devant Dieu. La prière n'est pas toujours les paroles. C'est un entièrement, on est entièrement dans cette requête qu'on a présentée devant le Seigneur. On va lire Jacques chapitre 15, Jacques chapitre 5 et verset 16. Jacques chapitre 5 et verset 15 et 16. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc la prière de foi, donc c'est une prière de confiance, est un genre de action, c'est un genre de effort, c'est un genre de décision. C'est une confiance, c'est une assurance, c'est une paix. Quand on présente quelque chose devant le Seigneur, on a confiance en lui, on a l'assurance que Dieu nous entend. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans la parole qu'il nous a donné accès à Dieu par le Saint-Esprit et que nous devons prier notre Père Abba. Dieu nous entend. On ne sait pas la réponse, mais nous savons que notre pétition est devant lui. Par contre, la prière de l'incrédulité, une prière indécise, n'attend à rien de la part de Dieu et ne recevra rien. Pourquoi Dieu va agir d'après notre incrédulité? D'ailleurs, il a dit qu'il ne va pas le faire. Donc, il faut effacer toute cette partie de notre prière, la partie qui est incrédule ou indécise. Il a dit... Confessez donc nos péchés les uns aux autres, donc quand c'est une question de péché, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, ok, dans ce qui concerne nos péchés. Mais il dit à la fin, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, c'est un peu presque drôle dans le grec. Il dit, ça marche, la prière du juste. Très efficace. Bizarre, mais c'est, on ne peut pas insister plus quand une personne, on ne parle pas d'un chrétien qui ne marche pas avec Dieu, qui est dans le péché, mais le chrétien qui marche avec Dieu, un enfant de Dieu qui marche avec Dieu. Donc c'est une personne que la parole appelle juste. Et il entre dans la prière pour quelconque raison, et bien ça marche. Ça marche et ça marche très bien. C'est ça que dit le verset. Ça marche très bien. Donc, on peut seulement dire, il faut prier, comme avec l'apôtre, en tout temps, par l'esprit, par plein de sujets, plein de façons de prier, et prier pour tous les saints. Dans le contexte, il dit, priez pour moi aussi, donc n'oubliez pas de prier pour votre pasteur. Alors, je voulais terminer avec une citation de William Carey qui dit « Attendre de grandes choses de la part de Dieu. » Il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, il faut qu'on attende de Dieu des grandes choses. Tenter des grandes choses pour Dieu. C'est-à-dire, il faut être actif. Si on ne veut rien faire et on prie à Dieu de tout faire, eh bien, il ne va rien faire. Parce que Dieu veut une collaboration avec ses enfants. Donc, je répète cette citation. Attendre des grandes choses de la part de Dieu, tenter des grandes choses pour Dieu. C'est la foi qui est en marche. Elle va vers l'avant et se dirige vers une cible. Nos prières, bien sûr, sont soumises à la volonté de Dieu et là-dessous, elle s'exprime en oui et amen. Parce que Dieu est toujours oui et amen. Donc, la prière, c'est vrai, est positive. Hein? Oh, même si c'est que quelqu'un ne meurt pas, c'est positif. Dieu, je ne veux pas que mon soeur, ma frère, mon père, ma famille meurent dans cette situation. Mais c'est une affirmation, c'est positive la prière. Elle ne saura pas s'exprimer en doute ou incrédulité par peut-être ou je ne sais pas. Nous devons présenter devant Dieu notre pétition, sachant que Dieu peut, s'il veut. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous apprenne à prier. Donc, je vais prendre quelques semaines pour toucher la prière. Et peut-être je reviens là-dessus un peu plus tard aussi. Okay?